Bonjour et bienvenue dans ce quatrième volet consacré au développement parallèle avec le framework.NET et la Task Parallel Library. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de partage de données et les problèmes qui en découlent inévitablement si on prend à la légère ce partage de données. En effet, rappelez-vous, lorsqu'on décide de développer en parallèle, c'est véritablement un état d'esprit qu'il faut adopter, il faut penser parallèle. Il faut dormir parallèle, il faut manger parallèle. Et en termes d'architecture, pour les algorithmes, il faut commencer à se poser les bonnes questions, qui font partie d'ailleurs d'un processus plus large, qu'on verra plus tard, qui est l'analyse et la conception pour la recherche de la concurrence d'accès, que nous aborderons d'ailleurs dans une autre vidéo. Alors, une des premières questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que je dois isoler les données de chaque tâche ou de chaque thread. Il y a certains algorithmes qui permettent de travailler sur un volume de données complètement différent et à la fin de chaque traitement, on agrège les données. Agrégation qu'on verra dans une autre vidéo consacrée aux boucles. Il y a d'autres algorithmes qui n'ont pas besoin de partager d'état. On a juste besoin de lire les données du voisin. Et donc, on va parler d'immuabilité, c'est-à-dire que la donnée en mémoire ne peut pas être écrite par un autre thread que celui qui la possède. Des algorithmes tels le producteur-consommateur, où le producteur va alimenter une liste de choses, et le consommateur va juste aller lire les données, en est un bon exemple. Et troisième question à se poser, est-ce que je dois synchroniser un état en mémoire? Dans ces cas-là, on va utiliser la notion de verrou, qui permet, comme son nom l'indique, de verrouiller un instant T, la mémoire, pour que chaque tâche ne puisse pas simultanément écrire dans cet espace mémoire. Alors c'est assez flexible, hein, ces verrous, puisque c'est très simple d'utilisation. Mais par contre, ça apporte beaucoup de problèmes de performance, comme on le verra, s'ils sont mal utilisés. Et surtout, s'ils sont mal utilisés, on va avoir affaire à des erreurs non déterministes, c'est-à-dire on ne sait pas quand elles arriveront, mais on sait qu'elles arriveront à un instant T. Et ces erreurs-là sont très difficiles à débugger ou à corriger. Alors si on décide donc de partir justement sur le partage de données, ben, il faut donc utiliser ces fameux mécanismes de synchronisation que sont les verrous et on va voir pourquoi. Et on va voir également que on n'utilise pas n'importe quel verrou pour n'importe quel travail en fait. Alors une des premières erreurs qui arrive le plus souvent en programmation parallèle, c'est une erreur de race conditions ou de course critique qui est la suivante. On imagine que j'ai ici trois tâches qui veulent simultanément écrire dans un compteur, donc faire plus 1. Est-ce que mon compteur à la fin sera égal à 3? Eh bien, si on a de la chance, oui, dans la majorité des cas, parce que en règle générale, la tâche va s'exécuter peut-être un pounième de temps les unes à la suite des autres. Donc ça sera, dans ce cas-là, un bon résultat. Mais peut-être que 1 million de fois après, une fois qu'on a exécuté notre algorithme, peut-être que ça sera égal à 1, à 2, voire à d'autres résultats. C'est donc ce qu'on appelle une course critique, une race conditions, comme disent les anglo-saxons. Les deux threads, ou les trois threads ici, concourent pour la même donnée en mémoire. Alors qu'est-ce qui se passe réellement de façon sous-jacente au niveau carrément processeur? Allons voir la chose suivante. On imagine que j'ai deux threads ici avec des instructions qui devraient normalement s'exécuter de façon séquentielle. La première c'est A égale Y, Y égale A plus 1. Et la seconde, c'est b égale y et y égale b plus 2. On voit que la donnée partagée est en y. Le thread principal ici s'exécute, j'ai y égale 0, c'est l'initialisation donc du y, et la première instruction au niveau processeur qui est a égale y. J'ai un entrelacement qui va se passer, bon, on imagine que j'ai le quantum de temps de ce thread numéro 1 qui est fini, donc le planificateur de thread va donner, va basculer le contexte et donner en fait la main à un autre thread, le thread numéro 2 par exemple, et lui va exécuter ses instructions. Et à la fin de son exécution, y égale à 2. Mais le thread initial, le thread principal là à gauche n'a pas fini son boulot. Il finit son boulot, y est égal à a plus 1. Et donc, c'est bien cette première thread qui a gagné la course, puisque y à la fin est égal à 1. Alors ensuite, on a une deuxième cas de figure. On peut commencer par le thread numéro 2 à droite ici. On initialise y qui est égal à 0. J'ai un entrelacement qui se passe. On exécute les instructions a égale y. Y est égal à a plus 1. Donc on imagine que le thread là ici, se dit bah, y est égal à 1. Bah, pas du tout. Puisque y ici égale b plus 2 va être exécuté sur le second thread. Y va donc être égal à 2. Dans le meilleur cas de figure, je vais avoir une exécution du premier thread qui va se finir, y est égal à 0, a égale y, y est égal à a plus 1, donc y est égal à 1, dans ce cas de figure, et puis j'ai un entrelacement numéro 3 qui s'exécute, je vais avoir un b égale y, donc b va être égal à 1, puisque y égale 1. Donc, y, b plus 2, y égale 3. Donc, dans ce cas de figure-là, j'ai y est égal à 3. Donc, en fonction, typiquement, de la vitesse de l'algorithme et de l'exécution simultanée ou pas, bah, y peut être égal à 1, à 2 ou à 3. C'est véritablement pas ce qu'on veut lorsqu'on développe et qu'on met au point un algorithme. C'est une erreur qui est extrêmement compliquée à débugger parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. On sait qu'elle va arriver, mais on ne sait pas quand. Ou les erreurs peuvent être tellement infimes qu'on s'en aperçoit peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois après la mise en place du programme. Mais voyons par code comment corriger ce type d'erreur. L'idée ici est donc de simuler une course critique. Et pour ce faire, on va réutiliser nos petits aliens, même si ils ne sont pas nécessaires pour la bonne explication de la course critique. Première chose qu'on va créer, c'est deux variables, max boucle, parce que la course critique qu'on va mettre en exergue se fera dans une boucle. Et puis on va simuler une charge à 15 millisecondes. Donc une boucle de 200 à une charge à 15 millisecondes. Ensuite, on va tout simplement créer une méthode que l'on va appeler carré, et qui, comme son nom l'indique, va tout simplement retourner le carré d'une valeur que je vais lui passer en paramètre. On va simuler donc une charge en utilisant la méthode thread.sleep. Et puis, on retourne le carré de la valeur. Une fois que ceci est fait, on va revenir sur mon bouton démarrer ici. Et puis, on va créer une liste de 5 aliens pour qu'on visualise bien ce qui se passe à l'écran. Ensuite, je vais collecter des données pour arriver en fait à déterminer la différence d'exécution entre une boucle séquentielle et une boucle parallèle, et surtout de nous donner la différence entre les deux résultats que nous aurions entre cette boucle parallèle, qui va donc tout simplement Donc là, on va déplacer l'alien numéro 1, donc 0 dans la liste. Et puis, je vais incrémenter Y à chaque tour de boucle de la somme du carré de 42. Et je vais retourner 42, donc je vais retourner la somme. Ensuite, je vais juste mettre une petite étiquette boucle séquentielle. Puis, je vais créer donc de la même manière une boucle parallèle. Donc, il faut que je collecte les données. Cette boucle parallèle, je vais utiliser la méthode for de la classe parallèle. Mais avant ça, je vais lui passer un certain nombre d'options que je vais créer ici. Entre autres, je vais dire que le max degré du parallélisme, c'est-à-dire le nombre de processeurs que je veux utiliser, va être égal tout simplement au nombre de processeurs que j'ai de disponibles sur ma machine. Et ça, je l'obtiens avec la méthode, le propriété, pardon, processor count de la classe environment. Ensuite, j'utilise la classe parallèle et vous voyez que j'ai une méthode qui s'appelle for qui prend en paramètre les bornes de ma boucle, donc de 0 à max boucle qui correspond à 200. Ensuite, je vais lui passer mes options et puis je vais lui passer en paramètre une action sous forme de lambda expression qui prend donc i en tant que paramètre. Je vais donc déplacer mes petits aliens, voilà. Et puis je vais créer, je vais faire mon calcul, donc ma somme de mon carré. Je vais retourner la valeur. Je vais mettre une étiquette pour qu'on voit bien sur la sortie écran que ça corresponde bien à une course critique. Maintenant, je compile. J'exécute mon programme. Go. Je vois que mon petit alien démarre sans aucun problème. Et puis une fois qu'il aura fini son job, j'ai les quatre autres qui vont démarrer. Elles démarrent, elles finissent. Donc la différence fondamentale ici, c'est que on voit bien que j'ai un temps d'exécution de 13 secondes environ, alors qu'ici j'ai un temps d'exécution de 667 millisecondes, ce qui est énorme. Par contre, la différence fondamentale, c'est que j'ai un race condition ici, une course critique, parce que le résultat n'est pas du tout le même. Alors, comment corriger ce problème? Eh bien, j'aurais tendance à me dire, ce que je vais faire, c'est carrément utiliser un verrou en mémoire pour protéger ici ma donnée. Alors, première chose que je peux faire, c'est tout simplement utiliser l'espace de nom system.threading.mutex et la classe mutex pour avoir une exclusion forte de ma zone à protéger. OK? Donc, ce qu'il faut faire ensuite, je vais tout simplement utiliser une méthode sur mon mutexte qui sera wet1. Donc ici, je vais utiliser la méthode wet1 pour attendre si jamais cet espace a été verrouillé, et une fois que j'ai fini, je vais le réaliser le mutexte. J'exécute, je compile ce programme, j'exécute. Ma première boucle démarre. Une fois que c'est fini, mais mon autre boucle démarre. Hop, je vois que c'est fini. Si je regarde le résultat, ici, je retrouve mes 13 secondes. Par rapport à ma boucle parallèle qui était d'environ 700 millisecondes, je suis remonté à 3 secondes et demie. Donc là, je suis quand même plus rapide de 10 secondes par rapport à la boucle séquentielle. Et derrière, mon résultat est correct puisque je valide bien que les deux valeurs sont identiques. Alors, un des principes du développement parallèle, comme on le verra d'ailleurs dans une autre vidéo, c'est de mesurer, mesurer, mesurer ce qu'on fait pour comparer les performances. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je me dis que ici, comme j'utilise un mutext, qui est un objet kernel, masread, mon thread, ma tâche passe du mode user au mode kernel. Et donc, du coup, je vais être pénalisé en performance. Donc ce que je peux faire, c'est plutôt que d'utiliser un mutext, qui est un objet à exclusion mutuelle forte, je vais plutôt utiliser un objet pur .NET et verrouiller la mémoire avec cet objet. Donc, pour ce faire, on va créer un type d'objet, voilà qui est fait, et puis je verrouille avec la méthode lock, qui est tout simplement un moniteur. Si jamais vous avez un langage qui ne gère pas ce type de sucre syntaxique, il faut utiliser à la place moniteur.enter. Donc voilà qui est fait. Là, je protège ma zone mémoire, donc à l'aide de ce verrou. On exécute ce programme. De la même manière, j'ai mon petit blalien en séquentiel qui part, et une fois qu'il aura fini, je vais avoir mes quatre autres aliens qui vont partir. Donc au bout de 13 secondes, le verrou est parti, hop, c'est positionné, et je m'aperçois, pareil, le résultat est identique, que peu ou prou, par contre, je suis... pareil en termes de temps d'exécution, je suis à 3 secondes et demie entre le mutex et le moniteur et le lock de C Sharp. Mais comme il faut mesurer encore et encore, je peux utiliser d'autres constructions pour vérifier que j'ai peu ou prou soit la même performance, soit une performance différente. Et pour ce faire, je vais utiliser un objet qui est le Reader Writer Log Slim, qui est nouveau en 4.5, et qui va me permettre de verrouiller la mémoire en écriture. Donc je vais créer cet objet. Ensuite, je vais tout simplement dire, je vais essayer de rentrer, donc d'essayer de protéger l'objet. Pour ce faire, je vais utiliser une méthode qui s'appelle enterWriteLock. Vous voyez, si on avait d'autres algorithmes de type plusieurs lecteurs et un seul écrivain, je pourrais aussi bloquer sur l'écriture ou la lecture avec la méthode enterReadLock. Là, c'est sur l'écriture. Je verrouille. Et finalement, lorsque j'aurai fini mon traitement, c'est-à-dire la somme, je vais sortir du verrou en écriture. On va réexécuter notre code. C'est parti. Passread démarre, mon petit alien démarre. Au bout de X secondes, c'est les quatre autres qui vont partir. Rappelez-vous, je suis environ à 3 secondes 5. Là, c'est parti. Donc, on s'aperçoit que peu ou prou, de la même manière, on est environ à 3 secondes On est descendu, on est un petit peu moins, on est un petit peu plus performant ici, mais c'est pas encore quelque chose sur lequel je voudrais m'attarder parce que ça n'atteint pas les objectifs que je me suis fixés. Donc dans notre exercice de mesure des performances, on peut même aller un tout petit peu plus loin et utiliser donc des objets qui sont en règle générale réservé à des experts pour créer des algorithmes de plus bas niveau, comme le SpinLock, qui va permettre de boucler tant que je n'ai pas acquis correctement le verrou. Donc, on va déclarer un booléen qu'on va appeler LCK et qui par défaut sera à false. Ensuite, on va passer à notre verrou en référence ce booléen. Voilà. Et puis, on va tout simplement tester si on a acquis le verrou. Bah, du coup, on n'a pas besoin de rester. Hein, on peut sortir de ce verrou. Hein, on peut l'abandonner. Voilà qui est fait. Je compile. J'exécute. De la même manière que les autres démonstrations, le premier boucle démarre. Mes autres boucles démarrent en parallèle et je vois que peu ou prou, je suis à environ 1 seconde, 3 secondes, pardon, de calcul pour la valeur de 352 800 qui est correcte par rapport à la version de ma boucle séquentielle. Oui, mais voilà, dans l'optique de mesurer, 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 je voudrais essayer une dernière possibilité, d'autant plus que je m'aperçois que ici, je fais juste une addition, tout compte fait. Donc une opération relativement simple, et que mettre un verrou autour de cette opération simple me semble la moins efficace possible. En effet, je sais que je vais pouvoir utiliser à la place des verrous des opérations atomiques qui vont me permettre d'incrémenter ou d'ajouter ma variable. De façon en une seule passe en fait. Alors pour ce faire, je vais tout simplement dans un premier temps déclarer une méthode tempo. C'est une variable tempo, pardon. Je vais lui faire un carré de 42. Donc l'utilité ici de ce carré de 42, c'est juste de simuler bien évidemment une charge. Ensuite, je vais utiliser la classe Interlocked qui possède un certain nombre de méthodes statiques, entre autres celle d'ajouter, mais on voyait que j'ai aussi la possibilité de comparer et d'échanger, de décrémenter des valeurs, d'échanger des valeurs ou d'incrémenter des valeurs. Là, nous, on va utiliser la méthode add en lui passant en paramètre quoi? Ben, une référence à ma variable x, que je veux incrémenter ou ajouter la valeur qui est dans la variable tempo. Voilà qui est fait. Je compile, j'exécute mon programme et voyons ce qui se passe. Mon premier alien démarre, donc il va calculer mon temps. C'est fini. En quelques millisecondes maintenant, grâce à cette opération atomique, j'ai bien le bon résultat qui est de 352 800. Par contre, on voit cette fois-ci que la valeur et le temps d'exécution a été drastiquement coupé. Donc là, j'ai un facteur d'accélération assez intéressant pour ma boucle, en utilisant des opérations atomiques. Alors vous allez me dire, Eric, hein, ces opérations atomiques, c'est gentil, mais on peut les faire sur des valeurs de type entière ou longue. Et si j'avais des doubles, et si j'avais d'autres opérations un petit peu plus complexes? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo lorsqu'on va aller un petit peu plus loin sur la parallélisation de boucles avec la TPL.